Alors je parlais de balade aujourd'hui, Philippe. Nous continuons en effet ensemble cette balade musicale à travers les films du groupe de recherche Images.
En effet, la semaine dernière, nous avions découvert des films qui précédaient la fondation du service de la recherche. Nous nous plaçons aujourd'hui au cœur de cette période très faste pour les cinéastes qui appartiennent au groupe de recherche Images. Nous avons retrouvé des trésors de musique inédite dans les archives du groupe de recherche musicale. Robert Cohen-Solal, l'un des compositeurs du GRM, nous parlera aujourd'hui de cette époque. Nous entendrons également des extraits inédits de L'Empereur et la Courtisane, de Jacques Demeure, de Délicieuses Catastrophes, de Piotr Kammler, mais aussi des Shadocks, de Jacques Roxel en 1968, sur des musiques de Robert Cohen-Solal. Pour commencer, Lignes et Points, un autre film de Piotr Kammler, sur une musique cette fois-ci de François Bayle. Parmi les cinéastes qui gravitent autour du groupe de recherche Images, Piotr Kammler est probablement l'un de ceux qui a réalisé le plus de films. Perfectionniste intransigeant, inventeur de génie, il crée au fil des ans tout un monde, un univers plutôt surnaturel. Sa production est telle qu'il est l'un des seuls cinéastes à avoir travaillé avec la plupart des compositeurs du GRM. Bernard Parmigiani, Béatrice Ferreira, Ivo Malek, Robert Cohen-Solal, Luc Ferrari, François Bayle et les autres. En 1965, après avoir déjà réalisé plus d'une quinzaine de courts-métrages pour le service de la recherche, Piotr Kammler réalise « Lignes et points », un petit film de 6 minutes qui prend en compte dès le début une construction musicale et visuelle originale. Avec l'aide du compositeur François Bayle, après avoir choisi séparément des moyens plastiques et sonores, il établit un découpage où les sons et les images sont considérés comme des éléments parallèles. Le film nous plonge finalement dans un univers abstrait, infini sidéral, peuplé de sons étranges, où surgissent et évoluent avec des mouvements tantôt lents, tantôt saccadés, des formes lumineuses, des taches solaires et des fourmillements de points tranchés parmi parfois des lignes totalement immatérielles. Les sons, percussions et résonances semblent se calquer sur la thématique même du film. Les impulsions pour les points, les résonances pour les lignes. Comme les images de Kammler, les sons de François Bayle remplissent et traversent l'espace en créant une deuxième voie de discours. ...1966, extrait de Lignes et points de Piotr Kammler et François Bayle. Revenons quelques instants sur l'institution qui produit tous ces films, le service de la recherche, de la radio et télévision française. Fondé en 1960, ce service a développé des moyens incomparables pour soutenir la production d'un cinéma différent. Il favorise également des rencontres entre les cinéastes et les musiciens. Robert Cohen-Solal, l'un des compositeurs du groupe de recherche musicale, nous parle du groupe de recherche Images.
C'est-à-dire que quand je suis arrivé, c'était déjà installé, et il y avait une multitude de réalisateurs qui passaient par là, dont certains avec qui j'ai travaillé, évidemment, et qui faisaient des films en tout loisir, avec tous les moyens qu'ils pouvaient avoir, et sans délai ni impératif économique, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc c'était très très bien pour les chercheurs, pour ceux qui avaient besoin de potasser leur matière, notamment ceux qui faisaient des dessins ou bien qui peignaient sur du verre ou bien comme Kammler, qui avaient besoin d'énormément de temps pour fabriquer une image. Et mon souvenir, c'est très vivant. C'était porte ouverte toute la journée. Et ce dont je me souviens, c'est la liberté qui régnait là. les croisements entre les gens, on allait se voir les uns chez les autres, il n'y avait pas de réticence, il n'y avait aucune retenue. Et donc j'ai vu beaucoup de gens comme Foldès, Kamler, La Poujade, des gens qui venaient pour créer leur film et qui restaient ou repartaient ou revenaient en faire d'autres.
C'est plus de 100 films qui seront produits entre 1960 et 1974, date à laquelle le service de la recherche est finalement dissous. Si certains de ces films sont de véritables petits chefs-d'œuvre inconnus, gardés précieusement dans les archives de l'INA, d'autres ont franchi la rampe pour atteindre la notoriété dans l'histoire de la télévision. C'est le cas des Shadok de Jacques Rouxel. Les Shadok arrivent sur les écrans en mai 68, à raison d'un spot de 3 minutes tous les soirs, juste avant le journal, sur la seule et unique chaîne de télévision. Ils deviennent vite un phénomène de société, scindant la France en deux catégories, ceux qui adorent, ceux qui détestent. Nul besoin de vous les présenter, je suppose, vous savez tous que les Shadok sont des oiseaux aux ailes trop courtes pour voler et aux pattes trop longues pour pondre normalement. Sur le plan intellectuel, ils sont en possession de tous leurs moyens. Ils sont donc parfaitement anormaux. Leur devise principale, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Quand les Shadok se retrouvent devant un grave problème et qu'ils ne voient pas comment le résoudre, ils pompent. Proverbe Shadok, il faut pomper pour vivre, il faut donc vivre pour pomper. Robert Cohen-Solal, qui a créé l'univers sonore des Shadok, nous parle de cette musique concrète peu ordinaire.
Les Shadok, ça m'a beaucoup inspiré. Ça, je ne sais pas pourquoi, mais ça correspondait avec ma façon d'articuler les choses. Hein, ça correspondait à mon inspiration. J'étais inspiré par le texte de Rouxel, d'abord, hein, qui est un texte très beau, très concis, très direct, très pur finalement, et accessoirement, j'allais dire, cocasse et burlesque. Mais c'est pas tant le cocasse et le burlesque que Rouxel vise avec ce texte. C'est un philosophe, Rouxel, il veut dire autre chose par les Shadok. Et donc, carte blanche m'était laissée de faire la musique que je voulais et puis de trouver le rapport que je voulais avec les images. Il s'agit de construire un univers sonore, donc de fabriquer toutes les ambiances afférentes à cet univers-là. Et c'est aussi bien le réalisme, entre guillemets, évidemment, parce qu'il y a, en fait, chez les Shadok, on s'aperçoit qu'il n'y a pas tellement de réalisme. Mais en fait, il y a ce qui est donné comme réaliste, c'est leur réalité à eux. Ils vivent sur une planète qui fait des drôles de bruits. Ils se produisent soit en foule, soit isolément. Ils font du bruit, ils se donnent des coups de marteau sur la tête. Donc à chaque fois, c'est des bruits différents. Donc il y a toute une différents plans sonores que j'ai dû faire pour construire une espèce de monde qui ressemble un peu à notre monde à nous. Puis j'ai essayé de construire une réalité aussi vaste que possible.
Les rumeurs géophysiques de la planète Shadok. Schaeffer adorait les Shadok, ça le faisait mourir de rire.
Ah oui, Schaeffer a beaucoup aimé les Shadok, je m'en suis aperçu parce qu'il m'a demandé un jour de venir dans son bureau et puis il m'a félicité pour le travail. Bon, j'étais très très étonné parce que j'avais un peu peur au début quand j'ai fait les Shadok, je me suis dit on va pas aimer ça parce que c'est drôle. Ça fait rire, mais c'est de la musique concrète, et puis J'ai peur que ça tourne en ridicule la musique concrète, mais en fait pas du tout. Ça a démocratisé un petit peu, ça la mettait accessible au public, ça la mettait à la portée de n'importe quelle oreille.
Nous sommes en compagnie d'un Shadok à bicyclette, sur une route, sur, sous et dans un escalier. Quelques années plus tard, en 1969, Robert Cohen-Solal réalise la musique d'un court-métrage qui approfondit le monde mystérieux et angoissant de Piotr Kammler. Monde de cauchemars fourmillant d'insectes étranges, où les lois de la pesanteur n'ont plus cours, où des sphères molles gravissent des escaliers, et où un personnage imaginaire lutte désespérément sur une plateforme surplombant une cuve pour ne pas être submergé par un liquide rouge qui s'y écoule goutte à goutte. L'univers de Piotr Kammler est construit sur le modèle des poupées russes, un monde gigogne qui en révèle un autre lorsque l'on pénètre à l'intérieur. D'une certaine manière, la musique concrète suit également ce principe. Il suffit de rapprocher suffisamment le micro de la source sonore pour découvrir un monde nouveau, une réalité toute différente. Ce procédé n'est pas étranger à la manière dont Robert Cohen-Solal compose la musique de Délicieuse Catastrophe en mêlant des sons de flûte et des sources électroniques pour révéler un univers sonore très étrange.
Je me souviens qu'à cette époque-là, en 70, le premier Moog synthétiseur est arrivé au studio de la recherche, dans le studio 54. Et donc, je m'essayais avec cette machine monstrueuse qu'il fallait câbler de module à module et passer des heures à trouver un son. Donc, mon enjeu sur ce travail-là, c'était de faire une mixité entre des sons de flûte et l'électronique, c'est-à-dire le son qui peut être généré par le Moog. Et donc, d'un côté, je devais chercher des petits éléments, souvent de l'ordre de la ponctuation, ou bien des choses assez courtes, que je mettais en boucle, au même titre que les sons instrumentaux, et trouver aussi le rapport avec le film, c'est-à-dire une certaine distance avec l'image, en même temps qu'on l'illustre par le synchronisme. En même temps, on essaye d'ajouter un sens supplémentaire qui n'est pas dit, parce que c'est la plupart du temps les films de Piotr Kammler sont sans commentaire. Donc il fallait aussi raconter une histoire en musique, et puis donc l'enjeu c'était aussi un enjeu de au point de vue du sens, quoi, du sens du langage musical que j'allais employer, trouver une musique qui soit à la fois écoutable toute seule et qui aille avec le film. C'est souvent ce que je cherche à faire dans le cadre des musiques de film.
Qu'est-ce qui fait que la musique électroacoustique fonctionne si bien avec l'image et avec le cinéma ?
Je crois que c'est parce qu'elle propose des sons inouïs, c'est-à-dire des sons qui ne sont pas reconnaissables en causalité, et qui sont obligatoirement perçus comme jamais on peut percevoir un son instrumental, parce qu'automatiquement on se raccroche à sa cause et on se dit bon, j'écoute un violon, j'écoute une clarinette, mais là dans le cadre de la musique électroacoustique on a affaire d'un coup à des sons qu'on appelle des sons inouïs et qui font qu'on est tout neuf vis-à-vis de ces sons-là et qu'on a une écoute assez nouvelle par rapport à eux. Et donc ils proposent dans leur rapport avec l'image un nouveau statut qui peut rajouter beaucoup de sens à l'ensemble. C'est-à-dire que l'un joue sur l'autre, l'image joue sur le son et il y a un feedback entre les deux. Donc ce rapport-là est intéressant et ça marche bien. Et on s'en est bien aperçu dès ces années-là, parce que c'était une expérience collective à ce niveau-là. Chacun faisait son expérience personnelle, mais la compréhension qu'on pouvait en avoir était collective et on s'en parlait. Hein, Schoeffer en parlait, On en parlait les uns aux autres, et on se rendait bien compte que cette musique-là marchait très très bien avec les films. Elle donnait un plus que la musique conventionnelle ne peut pas donner.
Cette même année, 1969, Robert Cohen-Solal participe à un autre projet cinématographique, cette fois-ci pour le cinéaste Jacques Demeure, qui réadapte l'un des contes de la lanterne, L'Empereur et la courtisane. Le film est une succession de peintures sur verre réalisées en couleur par François Zégès dans l'esprit des estampes japonaises. Le film, ayant pour thème l'amour qui défie le temps, utilise le fondu enchaîné pour relier ses peintures. Le rôle de la musique est donc de créer à la fois le mouvement et le lien entre ces images. Un lien continu qui évolue lentement, puisant son inspiration dans la tradition orientale du raga pour renouer avec les origines persanes des contes de la lanterne. Robert Cohen-Solal utilise donc des trames étirées de sons électroniques pour rappeler les résonances des cordes sympathiques du sitar ou du sarangi hindou. Il introduit également des petits éléments à base de flûte dans le style oriental pour contraster avec la lente évolution de ses trames. La beauté des peintures, l'esprit méditatif qui entoure ce petit film en font un moment de pur délice pour les yeux et les oreilles. L'Empereur et la courtisane, court-métrage de Jacques Demeure sur une musique inédite de Robert Cohen-Solal. Voilà, sur ces notes, tu vois ce que j'entends s'achève. Rendez-vous la semaine prochaine pour continuer cette incursion musicale du côté des musiques de films produites par le service de la recherche. Un très grand merci à tout le personnel du groupe de recherche musicale qui m'a apporté toute son aide pour préparer ces émissions. Je vous signale au passage l'ouverture vendredi prochain du festival Bac à l'écran qui s'installe pour un mois à l'Auditorium du Louvre, une manière originale de présenter la musique en images. Cette émission vous était proposée par Philippe Langlois, mixage Jean Priseau, réalisation Olivier Guérin et Gilles Mardi-Rossian. À mercredi prochain, bon après-midi à tous.